Bonjour, shalom, assalam alaikum. Jeudi 21 septembre 2023, nous sommes au studio pour vous accompagner tout au long du Club de la Presse jusqu'à 12h25. À la technique, Victor Bekoku Michel Tomega, qui va être rejoint justement par Kodjo Jérôme Dakoucha. Au studio, deux confrères déjà en place, nous entendons un troisième. Juste le temps de vous saluer, vous qui êtes branchés sur Canal FM Lomé 6 environ, mais également sur Radio Lumière depuis Anéha, Radio La Paix à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baga Niamtougou, Radio Daoula Bassin, Radio Courtoisie à Dapan, mais également les internautes qui sont en communion avec nous un peu partout en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Océanie, sur toutes les îles. Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. C'est cette phrase de Nelson Madiba Mandela qui nous inspire aujourd'hui. Encore une fois, que nos choix soient le reflet de nos espoirs et non plutôt de nos peurs. Et l'homme Kossi Atisogbe de La Nouvelle Tribune, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour Canal FM, bonjour à toutes et à tous.
Comment tu vas? Très bien ce matin.
Oui, ça va, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est à Dieu toute la gloire si nous sommes encore sur ce plateau ce matin.
À Dieu la gloire, mais également quand on est assis à la droite de notre Tchotcho, Michel Sarakoa Balo Tchadja de Ora les Vainqueurs. Bonjour Michel.
Bonjour Sass, bonjour Elom. Oui, bonjour Canal FM.
Merci, nous attendons un troisième confrère avec l'espoir qu'il va nous rejoindre incessamment. Alors j'ai parcouru vos parutions, c'est des sujets tous azimuts. Alors vous êtes revenu sur ces trois jours de pénurie de carburant qui ont marqué les esprits et pourquoi pas l'économie. Également nous allons revisiter deux infrastructures ici et là et puis l'export. Avec différentes activités qui ont eu lieu ces derniers jours et qui se profilent encore à l'horizon, dont la Coupe d'Afrique de Maracana qui va se jouer au Bénin à partir du 25 septembre prochain. Le Togo y présente deux équipes nationales, seniors et super seniors. Alors nous allons revisiter l'esport au Togo entre la pratique, également les exigences légales et la protection des athlètes. Et puis, nous allons voir comment l'OTR donne un peu d'oxygène en cette période de fin d'année. Et puis, nous allons terminer avec quelques denrées de proximité qui ont des sorts différents actuellement sur les marchés. Alors, ces trois jours de pénurie de carburant qui ont marqué les esprits, c'est vrai que depuis hier, la situation a commencé à devenir normale, laquelle normalisation s'accentue aujourd'hui, tout de même avec quelques poches encore de stations qui restent à être ravitaillées ici et là. Alors ces trois jours, le dimanche, lundi et puis mardi, tout cela a eu un impact négatif sur l'économie nationale. Michel, c'est ce que Ouara a écrit ce matin.
Ah oui, je pense que ce qui s'est passé d'abord dans la journée de dimanche, lundi, mardi même, ça a continué hier, ça a un impact. Et quand vous voyez comment certains n'ont pas pu aller même au lieu de service, parce qu'ils n'avaient pas de carburant, et il fallait débourser pour certains 1000 francs, pour d'autres 1500, pour d'autres encore 2000 pour pouvoir trouver un litre de carburant.
Oui, justement, à ce niveau-là, Thierry Tama a écrit un message qui circule un peu partout, qu'il a été contraint de payer le litre de carburant frelaté ou bien boudé à 2000 francs CFA.
Ah oui, moi, devant moi-même, ça se passait. Moi, j'ai dû garer pratiquement toute la journée de dimanche avant que quelqu'un ne m'aide dans la soirée. Et donc... Et lorsque vous voyez cela, même si vous n'êtes pas économiste, vous allez comprendre que ces trois ou quatre jours-là, les Togolais ont tellement souffert et ça a impacté l'économie de tout un chacun. Et si j'ose le dire, l'économie nationale. Parce qu'il y a un dysfonctionnement énorme dans le quotidien de tout un chacun. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le sous-estimer. Et donc, moi, ce qui m'a un peu intrigué à un moment donné, c'est que la nouvelle ministre, c'est vrai qu'elle est venue trouver la situation, ça ne dépend pas d'elle, mais le communiqué qu'elle a sorti en menaçant ceux qui tenteraient d'augmenter les prix sur le carburant, je pense qu'elle s'attaquait aux conséquences et non à la cause. J'aurais voulu qu'elle s'attaque à la cause, faire en sorte que rapidement la situation s'améliore pour que les gens puissent acheter le litre au prix normal. Parce que ce dont elle veut parler, mais ce n'est pas eux qui fixent le prix. Parfois même, c'est les usagers même qui, devant une nécessité, il va amener la femme à l'hôpital, l'enfant à l'hôpital, ou bien lui-même, il est malade. Il est obligé de demander, de proposer lui-même le prix, quitte à son serviteur d'accepter ou non. Donc, quand on dit qu'on veut menacer tout ça, mais moi, je pense que cette façon...
En tout cas, le message de la ministre, c'est à l'endroit des stations-service qu'elle est invitée à ne pas verser dans la spéculation et augmenter les prix.
Madame la ministre Kaïmi Védor, elle-même sait qu'elle n'a aucun contrôle.
Elle a envoyé dans la journée de lundi. Moi, j'ai en tout cas aperçu une équipe du ministère du Commerce. Mais j'ai rigolé. Je dis, mais attendez, vous voyez, quand elle menace les gens de en tout cas les pompistes ou je sais quoi là, ça ne sert à rien parce que les pompistes servent au prix normal. Mais il y a certains qui prennent ce carburant-là est de l'autre côté de la route.
Oui.
Ils le vendent à 2000.
Oui.
Hein? Et le pompier, ça fait quoi? Rien.
Et justement...
Donc, c'est qu'elle n'a pas la maîtrise de comment les choses se passaient. Bon, elle avec ses services, elle a pendu ce communiqué, mais c'est un communiqué, moi, je dis que
donc,
elle s'attaquait aux conséquences,
à s'attaquer plutôt à la cause et non à la conséquence.
Et puis, c'est vrai que sa communication n'a pas beaucoup rassuré plein de gens. La preuve... Le journal Le Tonnerre, paru aujourd'hui, écrit à la page 4, le devoir de vérité envers le peuple. Le peuple est dans le droit de savoir ce qui s'est exactement passé ces trois derniers jours afin de conjurer et que cela ne se reproduise plus jamais autant que possible. Alors, dans cette situation, d'abord, Magloire Teko Kenvi qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour à toi, Sasgaou. Bonjour au confrère Michel Elom. Bonjour, Canal FM.
Merci. Ton journal Flambeau y consacre deux articles. D'abord, l'éditorial intitulé « Des moments de détresse ». Quand vous écrivez que le secteur pétrolier, toujours englué dans les rouages de la surenchère ou de la mauvaise gouvernance, oui. Et puis de l'autre côté, Flambeau décerne une mention spéciale pour les vendeurs de boulets qui ont eu à sauver plus d'un, Michel le disait tantôt, cette essence frelatée dont les vendeurs sont constamment pourchassés par les forces de sécurité comme des malpropres. C'est cette essence qui a pris de la valeur et gagné en considération pendant ces trois jours de pénurie que nous avons connus.
Évidemment, comme tous les Togolais l'ont su, c'était quand même 48 heures assez pénibles pour les usagers de la route qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans une situation assez difficile où, au premier abord, semble-t-il qu'il y a une grève des transporteurs qui serait à la base. Après, le gouvernement est sorti pour informer l'opinion que cela est dû, n'est-ce pas, au retard du navire. Mais qu'à cela ne tienne, à la fin, on retient tout simplement que ce sont les consommateurs togolais à la base qui avons souffert véritablement de ces situations, même si à ce jour, la situation n'est pas totalement rétablie. Alors, nous nous sommes dit, mais à qui la faute? À qui la faute? Parce que c'est la grande question. Tout à l'heure, Michel disait donc qu'il fallait plutôt attaquer le mal par les racines. Et nous pensons que... tout serait véritablement autour du système de mécanisme en réalité. Ailleurs, d'après nos informations, le système, n'est-ce pas, est confié au secteur privé, et c'est l'État qui joue le rôle de régulation. Mais au Togo, c'est un peu un système mixte où chacun essaie de jouer sa partition, mais en même temps, ça crée des réseaux parallèles qui, à la fin, créent une certaine situation dont les conséquences ne peuvent être que ce que nous avons vécu. Tout à l'heure, on parlait de la ministre. Elle venait à peine d'arriver. Il y a d'autres courants de pensée qui estiment que peut-être qu'elle serait victime, n'est-ce pas, de ces réseaux de lobbying qui étaient là bien avant lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais nous pensons que cette situation qu'on a vécue et qui a vraiment fait passer les usagers par tous les états d'âme possibles, alors qu'en réalité on est à quelques jours de la rentrée, et qui véritablement se veut une période très difficile pour les parents d'élèves et tout. On a encore ajouté à cela cette situation d'essence. Mais la grande leçon qu'on pourrait tirer de cette situation, c'est que pour nous, c'est à quelque chose, malheur est bon. Il faut quand même que les gens prennent place autour d'une table et discuter véritablement pour dégager le meilleur mécanisme qui pourrait servir le Togo à faire, du moins, à commander le carburant et à le vendre sans c'est quoi que là qu'on a vécu. Maintenant, l'autre parallèle, c'est que nous avons décerné une mention spéciale aux vendeurs de boudins. Mention spéciale parce que au même moment, ceux qu'on pourchassait hier, c'était eux qui s'étaient érigés, en sauveur pour le peuple togolais. Mais en même temps, eux aussi, ils en ont rajouté un peu de trop, parce que les sangs qui se vendaient hier, peut-être à 650, à 750, a connu une majoration allant jusqu'à 1500, 2000. Nous avons estimé que oui, ils avaient sauvé le peuple togolais, mais certes, mais ils pouvaient aussi revoir un peu.
Merci. Dunia Le Monde, qui revient sur le sujet aujourd'hui, parle de spécial baptême de feu pour la nouvelle ministre Kayi Mivedo. Et la timide, plutôt la reprise qui a commencé depuis hier. Et l'homme Atichoubé, comme le disons, il faut que la nouvelle ministre et toute son équipe, et le gouvernement dans son ensemble, tirent vraiment de judicieuses leçons de cette mésaventure qui, heureusement, n'a pas trop duré.
Non, je crois quand même que les consommateurs, les citoyens togolais dans leur ensemble méritent quand même des excuses publiques par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez, la situation qu'on a vécue les 3-4 derniers jours est une situation à laquelle personne ne s'y attendait, d'abord. Et ensuite, ça a causé beaucoup de désagréments à des personnes. Des gens qui ne se sont pas présentés au bureau, et des gens qui étaient malades, qui n'ont pas pu rallier des hôpitaux. Mais le carburant, c'est stratégique. C'est stratégique. Les gens qui se sont réveillés au matin comme ça avec une voiture en panne sèche et qu'ils ont dû abandonner la voiture. Mais l'inflation qu'il y a eu ces derniers jours, à quelques jours de la période de la rentrée des classes. Et donc, moi, je crois quand même que au niveau du pays, on doit quand même présenter des excuses publiques, d'abord consommateurs, dans leur ensemble, pour tous les désagréments que cette affaire leur a causés. Maintenant, de deux, à l'heure où nous sommes en train de parler, on n'a pas la moindre information sur ce qui constitue la cause de cette affaire. Mm-hmm. Officiellement, on nous a juste dit que vraiment il y a une situation qui est là et que bon, qu'on met en garde les spéculateurs. Mais on n'est pas en mesure de nous donner la vraie raison. On a appris.
Le gouvernement parlait du retard d'un tanker qui a mis du temps pour rallier notre port.
On a parlé également d'une grève des chauffeurs de la STE, etc. Mais ce n'est pas véritablement les vraies raisons qu'on nous donne. Écoutez, parce que justement, et les choses qui se passent là, c'est la planification. Quand on est en matière de commande de produits pétroliers, je rappelle que le Togo est le seul pays de la sous-région où la commande des produits pétroliers se fait par l'État. Dans les autres pays, c'est les traders qui le font. C'est-à-dire, avant, je me rappelle sous le ministre Madie Guy Lorenzo, avant, c'était quand il était ministre du commerce, c'était sous lui que ça s'est même l'État a repris la chose. C'était à tour de rôle que les compagnies passaient la commande des produits pétroliers. C'est-à-dire, s'il y a telle compagnie qui commande aujourd'hui pour tous les autres, c'est rotatif. L'État a décidé de reprendre par rapport à un certain nombre de choses. Et depuis, on est là, il y a des problèmes. Et quand la situation se passe comme ça, quelques jours seulement après
le limogeage du ministre et son remplacement par un autre collègue. On ne peut pas dire
qu'il a été limogé.
Enfin, remplacé, c'est un remaniement.
Il a été nommé à un autre ministère.
Excusez-moi, oui, c'est vrai, c'est un remaniement. Mais quelques jours après son remplacement, mais il fallait quand même qu'on puisse véritablement prendre nos marques par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on nous dise véritablement ce qui se passe. Parce que pour ce débat sur le secteur du pétrole, on l'a fait dans ce pays. Ça a nécessité qu'on colle des procès à des confrères. Et personne ne nous a jamais rien dit sur ce qui se passe exactement dans cette filière.
Le fameux pétrole gate, là.
On ne nous a jamais rien dit, à part qu'on nous dit comment on passe la commande des produits pétroliers. Ça, tout le monde le sait. Si on prend les tests, tout le monde sait comment on va faire, comment on procède. Mais ce qui se passe réellement, qui détient quoi, on ne nous a jamais rien dit. D'accord? Et on a fait cette affaire pendant des mois. On a assisté à ça. Et aujourd'hui, on a un problème. Il n'y a plus de carburant dans les stations d'essence. À qui la faute? Et là-dessus, tout le monde se tait encore. Si un confrère se mettait encore à faire des enquêtes, à révéler un truc, ou bien à écrire, on va dire demain qu'il y a un autre procès. Bon, finalement, qui fait la rétention d'informations sur le secteur du pétrole au Togo? Et nous, on est obligés d'en souffrir, d'en pâtir. Quitte à ce que les gens meurent. Parce que les gens étaient malades la dernière fois. Il n'y avait pas de carburant pour pouvoir les amener à l'hôpital. Non, mais c'est pas sérieux.
Merci. Alors, il y a ce que la presse fait au jour le jour. Il y a également, je crois, la Ligue des consommateurs du Togo et l'ATC qui ont également réagi. Un groupe de partis a également réagi. C'est la dynamique de la majorité du peuple qui a sorti un communiqué intitulé le peuple victime une fois encore de la mauvaise gouvernance, le gouvernement togolais rattrapé par le pétrole gate. Michel, pour conclure.
Moi je laisse les hommes politiques, hein. Ils sont dans leur chapelle, ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je voulais ajouter, c'est que tu disais tantôt que c'est une mésaventure qui n'a pas trop duré.
Oui.
Mais qui a duré 4 ou 5 jours?
Oui.
Ça a duré, même une journée.
Et ce matin aussi.
Oui, ça continue. Hein.
Il y a des poches
qui n'ont pas. Donc ça, mais 2 jours déjà, mais vous savez, lundi soir, la circulation était très fluide. Oui, hein, oui, à Lomé, mais j'ai fait le tour. Oui. C'est pas que les Togolais, tu les connais, c'est pas que les Togolais n'avaient pas envie de sortir. Mais c'était resté à la maison parce que ils ne savent pas comment se déplacer.
Seules les motos électriques circulent.
Mais moi j'ai eu ma peur, c'est que ça va passer, il n'y aura pas de sanctions parce qu'on nous dit que c'est une situation malencontreuse, le bateau qui ne serait pas vite arrivé à cause du mauvais temps. Bon, et vous allez voir que peut-être on ne va pas sanctionner qui que ce soit. Et comme d'habitude, on continue. Mais moi, j'ai eu peur. J'ai dit, même à supposer que réellement ce qu'on nous dit, que le bateau a eu un retard à cause du mauvais temps, ce qui est normal, mais est-ce que le Togo n'a pas des réserves stratégiques pour faire face à des situations exceptionnelles, pour faire face à des casseroles? On n'a pas de réserves stratégiques pour tenir sur 1 ou 2 mois comme ça? Sans attendre un bateau. Mais j'ai eu peur. J'ai dit, mais si c'est comme ça, mais y a un problème.
Oui.
Les réserves stratégiques. Parce que.
Si on en a, qu'est-ce qu'on en a fait?
Voilà.
Pour ne pas ravitailler la station service.
Le service en attendant. Période-là. Parce que c'est de ça qu'il est question.
Merci. Nous continuons avec nos infrastructures routières. Vous savez. Nous en parlons souvent et aujourd'hui nous choisissons deux cas symboles. Le premier, c'est le tronçon à Veposo Togokome dont nous avons souvent parlé et qui finalement il y a quelques jours la ministre en charge des travaux publics a fait une visite de terrain, madame Zouria Toukassa Traoré. Et dans la foulée, la Nouvelle Tribune écrit que la réhabilitation du tronçon à Veposo Togokome est achevée. C'est le premier lot de cette route-là, 2x2, sur une longueur de 10 km, avec ses aménagements connexes, dont la ministre nous a dit que c'est achevé. Alors, de la côte, nous allons dans la préfecture de Ouawa, avec une autre route que Michel doit connaître sûrement. Et c'est Chronique qui nous en parle. L'état très défectueux de la route Badou-Mangouassi. En fait, il s'agit d'une route d'une longueur de 31 km qui part de Badou et va à Mangwassé, mais également qui passe par Tomegbe et Pété-Bénin. Et en ce temps de pluie,
Pété-Maflou aussi.
Ah, ok. Donc, le journal Chronique parle des pertes en vie humaine avec des accidents terribles et des dégâts matériels très importants à cause de l'impraticabilité de cette route-là. Alors, les populations qui en appellent directement à la magnanimité du chef de l'État. Le problème, c'est que cette route-là, c'est dans l'une des régions les plus de forte production agricole. Alors, comment est-ce qu'on fait la promotion de l'agriculture? Le chef de l'État qui disait au FOPAT qu'il rêvait que les futurs milliardaires du Togo viennent de l'agriculture. Alors, comment est-ce qu'on peut tirer un tel discours, mais sans accorder une attention vraiment effective aux zones de production et aux populations qui habitent là-bas? Michel?
Ah, c'est la question. Bon, peut-être que l'État va dire qu'il ne peut pas faire tout
en même temps.
Peut-être on est en train de faire certaines routes ailleurs. Après, on va arriver à cette route-là que je connais parce que j'ai maintes fois emprunté cette route jusqu'à Mangwassé, jusqu'au Ghana, à Kédjébi. Il y a un petit canton qu'on appelle Kédjébi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment une nécessité pour le gouvernement d'aider donc ces populations-là à écouler leurs produits agricoles. Parce que, comme tu l'as dit, c'est une zone que je connais et c'est une zone à forte production agricole, notamment le café, le cacao. Et quand je pense à cette route, je pense également à la route Gametonou-Palimé, que j'emprunte également. Il y a un trafic qui se fait sur cette route-là, mais j'avoue que cette route-là, c'est le goudron que vous voyez là-bas date des années coloniales. Et aujourd'hui, il n'y en a même plus de traces. Et lorsque il y a un malade dans le canton de Gameton pour l'amener à Palimé. Mais si peut-être c'est une dame qui va accoucher, qui est en travail, mais vous allez comprendre qu'elle ne va pas arriver à l'hôpital. Si c'est un malade qui a vraiment une maladie chronique, une maladie grave, c'est un problème. Et le Ghanéen amène des produits à travers cette route-là, mais cette route-là est abandonnée et carrément. Je pense que Magloire en sait quelque chose parce que il connaît très bien la zone et il sait de quoi je parle.
C'est chez ses oncles maternels.
Non, lui passe, il passe de l'autre côté. Mm-hmm. Il passe de l'autre côté. Cette route est à part.
Voilà.
Donc, lui et moi, on se croise là-bas de temps en temps. Donc, c'est pour dire que au-delà de cette route de Badou, Tomegbe, Mangwassé, il y a aussi Palimé, Douane jusqu'à Gametonou. Voilà. C'est une route qui n'existe même plus, qu'on a ignorée jusqu'à ce jour.
Merci. Voilà. Merci. Alors, Chronique nous rappelle que la route Badou-Mangwassé, en passant par Tomegbe et Pété-Bénin, a été goudronnée dans les années 70. Mais quand vous y passez aujourd'hui, il n'y a plus de bitume.
Donc
voilà, il a anti-chobé deux sortes de routes. Hein. Le tronçon avec Pozo, la côtière qu'on vient de réceptionner, et puis toute l'attention qu'il faut accorder à ces zones rurales. C'est les paysans de ces zones-là qui nous donnent de la nourriture ici dans les villes.
Non, je crois que c'est important, surtout quand on prend par exemple un ministère comme le ministère du désenclavement et des pistes rurales, qui quand même a reçu un important financement par rapport à un certain nombre de choses, et associé notamment à tout ce qui se fait au niveau du ministère des infrastructures. Je crois que les routes à l'intérieur du pays doivent quand même, certaines routes qui sont des routes pratiquées par les agriculteurs, parce que sans route, on ne peut pas rejoindre la capitale, on ne peut pas faire aboutir ou acheminer les vivres vers les populations. Donc, je crois qu'il doit y avoir un peu plus d'accent mis sur ces routes, sur ces zones agricoles, pour que les vivres puissent trouver quand même les capitales, les villes auxquelles elles sont destinées, parce que justement à l'intérieur du pays, il y a certaines zones qui sont des zones désenclavées. Et vous avez
enclavées
plutôt, voilà. Par exemple, quand vous prenez la route, Bassa pour aller à Tindiassi, vous voyez tout le calvaire qu'on a pour aller là-bas.
Dans la plaine de Meaux.
Dans la plaine de Meaux, alors que c'est le grenier des ignames. On voit toute la richesse agricole qu'il y a dans cette zone-là. Et je crois quand même qu'il y a des efforts à faire encore sur ces différentes voies pour que les vivres qui se trouvent dans ces zones agricoles puissent facilement être acheminés vers les villes qui sont un peu plus proches de la
capitale. Et puis, il faut ajouter un tronçon, Bassar, Tindiassi, un tronçon de moins de 100
km. 800 km.
Mais qu'on parcourt en 5-6 heures du temps.
Ouais. Ça vous donne une idée de toutes les difficultés. Voilà.
Ça me rappelle il y a quelques années, quand on allait de Dapan à Mandouri, toute une demi-journée
pour parcourir
une distance de 105 km. Oui, Magloire.
Non, je crois quand même que le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui, dans la mesure où tout récemment même on a vu le chef de l'État même devant au travers donc de la campagne nationale. C'est ça, le faux pas, c'est ça, le forum qui est là et le discours qui est sorti, c'est que on veut beaucoup plus miser sur le développement de l'agriculture. Alors on peut pas parler du développement de l'agriculture sans passer forcément à la route. Vous avez l'habitude de dire que la route du développement passe par le développement de la route. Mmh. Alors pour ce qui est justement de la zone de Badou, je connais pas trop bien la localité, mais j'en ai vu une vidéo par rapport à une des routes en situation actuellement. Et vous allez constater que le problème de cette route, c'est pas forcément qu'elle n'a pas été retapée ces dernières années, mais vous allez constater que c'est mal fait. Parce qu'il n'y a que de la boue à la tombée des premières pluies. Mmh. Et ça repose une autre question. Comment ont été attribués les marchés là à ces entreprises? Parce que s'il s'agit de bitumer, là, on peut comprendre. Mais s'il s'agit de retaper tout simplement ou de retracer, c'est là où certaines entreprises se permettent de faire dans la légèreté. C'est-à-dire, on racle juste une partie de la route et on s'en va. Et quand il y a les premières pluies, en lieu et place, peut-être de la terre dure, on n'aura que de la boue. Et je crois que ces situations-là se retrouvent un peu partout au Togo. Et cela m'amène justement à encore interpeller le gouvernement. Il fait déjà de son mieux, mais en même temps, c'est les pauvres sous des Togolais qui sont investis justement dans ces chantiers. Et lorsque une entreprise postule à ce genre de marché, il faut veiller à ce que ces marchés-là soient bien réalisés. Parce que c'est à coup de milliards quand même, mais on ne peut pas se permettre que trois mois, un an ou un an et demi après ces travaux, que les premières pluies transforment carrément le visage de ces routes-là. Ça voudra dire qu'en réalité, ces travaux n'ont pas été bien faits. Et donc, ça repose le problème de suivi qui demeure toujours.
Merci. Ces deux routes dont nous avons parlé, un auditeur qui nous a dit également, la route qui mène vers la cascade de Homé. L'une de nos merveilles touristiques, la route est impraticable.
Ouais.
Et je pense également aux préfectures de l'Est Mono, à la préfecture de l'Est Mono avec des régions vraiment très très enclavées. Mm-hmm. Et puis dans la corne, dans l'angle là, entre Mango et la frontière du Ghana, des localités également très enclavées qui souffrent énormément en cette période. Surtout
parce que quand nous parlons de ces routes là, si je prends la route de Badou, Mangwassi, Palimé, la ville de Palimé et Kametonou et bien d'autres localités. C'est que nous voulons que les produits agricoles qui sont produits par nos braves agriculteurs puissent être
acheminés rapidement.
Et même à partir de la capitale, on peut exporter. On sait, on aura une idée claire des capacités agricoles du Togo. Vous imaginez que quand vous allez à Tindiassé, mais les tons d'ignames vont migrer vers Accra et c'est le Ghana qui exporte l'igname alors que c'est notre igname.
Oui. Parce que le Ghana est plus proche.
C'est facile à
mettre.
Alors que c'est nos ignames. Voilà. Si ça arrivait ici, si nous consommons, si ça reste, on peut exporter. C'est le Togo.
Oui.
Voilà. C'est pour ça que nous attirons l'attention des autres autorités. Parce que quand vous allez, les produits agricoles notamment le café cacao, produit à Mangwassé, à Dangota, puisque Dangota n'est pas très loin de là. Ces produits-là, si le paysan n'arrive pas à écouler ça vers Lomé, il va vendre ça aux agents qui font le smuggle vers le Ghana.
Merci. Et c'est vite fait. Pour la qualité, hein, les auditeurs attirent notre attention sur les travaux de la route Sokoré-Bassa qui avance trop lentement. Trop lentement. Cette route dont la pioche a été faite par la première ministre il y a bientôt 3 ans. Par euphémisme, ça avance trop lentement.
Non, ça n'avance pas.
Je ne sais pas ce qu'il en est de la route Sokoré-Tchamba. Vivement que.
Et les désagréments que ça crée aux usagers actuellement. Nous, on est passé par là l'année dernière, mais j'avoue que, mais non.
Merci. Nous continuons avec le sport. Le sport entre pratiques, exigences légales et protection des artistes. Alors, quelques activités. Protection des athlètes. Voilà. Je vous l'ai dit. Protection des athlètes. Alors, quelques activités dont nous parlent les journaux. Le tonnerre qui revient sur le championnat national de karaté qui a eu lieu les 9 et 10 septembre dernier. C'était au terrain de basketball au stade Omnisport de Lomé. Une participation remarquable du Karaté Club Phoenix. Ça, c'est bien. Autre journal qui nous parle d'une autre activité, c'est Le Changement, qui nous parle d'un club dont nos parents, nos grands-parents ont été supporters. Il s'agit de la modèle Football Club de Lomé, le Yellow Fever, qui est tombé dans une torpeur, mais que les supporters veulent ressusciter. Le Yellow Fever qui doit retrouver les pelouses du pays à travers le championnat national de football. Nous le souhaitons. Bonne chance, beaucoup de courage. Et puis, je l'ai dit, du 25 au 30 septembre au Bénin, aura lieu la Coupe d'Afrique de Maracana. Ce genre de football qui se joue sur terrain de hand.
Oui.
Et le Togo va y participer avec 2 équipes nationales, les seniors et les super seniors. Tout ça, c'est bien. Mais tous ces sportifs, tous ces athlètes qui participent à ces différentes épreuves, est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Si un accident survenait, est-ce que ces athlètes pourraient être pris en charge? Cela nous amène à cet article de la Nouvelle Tribune qui est intitulé « Protection des athlètes, assurance et licence fédérale ». Le Comité national olympique Togo qui apporte des clarifications. Il y a une sorte de bras de fer entre le CNO Togo et les fédérations, parce que le CNO veut procéder à un répertoire des athlètes, de tous les sportifs d'un certain niveau, et surtout le CNO veut s'assurer que la loi du 7 mai 2021 est bien appliquée en matière de protection des sportifs, n'est-ce pas Elom?
Oui, pas seulement la loi du 7 mai 2021, mais les statuts même du CNO Togo, avec notamment la charte olympique, qui est quand même la Bible en matière d'olympisme en ce qui concerne la protection du mouvement olympique. En fait, en réalité, je crois qu'il y a eu plusieurs correspondances qui ont été adressées aux fédérations nationales sportives depuis 2021 pour attirer leur attention sur la nécessité de pouvoir protéger les athlètes en ce qui concerne leurs différentes activités sportives. Malheureusement, les fédérations nationales sportives ont traîné le pas, et jusqu'à ce que récemment, une autre correspondance ait été envoyée pour leur donner un moratoire ou une date limite pour que toutes les fédérations puissent se mettre en règle en respectant notamment la charte olympique dans ses dispositions, en respectant les statuts du CNO et aussi en respectant la loi du 7 mai 2021 sur l'exercice des activités sportives au Togo, notamment l'article 45 qui précise que les fédérations nationales sportives doivent souscrire un contrat d'assurance par rapport au championnat, ensuite une assurance individuelle multi-risques et responsabilités par rapport aux athlètes, c'est-à-dire à chaque athlète. Et donc le CNO Togo, voulant faire respecter notamment ces différentes dispositions olympiques et légales, a demandé à ces fédérations de pouvoir se mettre en règle en lui fournissant une liste des athlètes d'élite avec leur club, en précisant les catégories hommes, dames, femmes, en demandant également un certificat médical conformément aux dispositions légales, parce que la loi demande que chaque athlète doit pouvoir fournir un certificat médical attestant de son état d'athlète, et ensuite en fournissant également la licence de chaque athlète en ce qui concerne les activités sportives, et maintenant une assurance individuelle, responsabilité civile et multirisque en cas d'accident par rapport aux différentes activités sportives qui représentent, bien évidemment, qui présentent des risques. Et donc, il y a eu quand même des incompréhensions entre le CNO et les différentes fédérations nationales sportives. Et donc, aujourd'hui, le CNO a quand même décidé de pouvoir clarifier un certain nombre de points pour les exhorter à pouvoir se mettre dans les règles. Parce que, justement, il est de la du devoir, il est de la responsabilité du CNO de protéger les athlètes, et non seulement les athlètes, mais l'ensemble du mouvement olympique par rapport à l'exercice des activités sportives.
En somme, l'homme, le CIO, Comité International Olympique, exige que les athlètes participant à ces compétitions soient assurés en cas d'accident.
Effectivement,
c'est ce que la Charte dit. Quelles dispositions que le CNO Togo a intégrées également dans ces textes.
Oui.
Ça, c'est du côté CIO, CNO. Et quand on vient maintenant au Togo, il y a cette loi du 7 mai 2021,
oui,
dont les articles 43, 44 et 45 précisent clairement les exigences des fédérations en matière de protection de leurs athlètes. Alors, si le CIO le dit et que l'État togolais l'a formalisé dans son arsenal juridique, alors quelle est cette incompréhension entre le CNO Togo et ses fédérations membres?
La question est pertinente, la question elle est très bien posée. Je crois quand même que c'est aux fédérations nationales sportives de dire exactement maintenant ce à quoi on doit s'en tenir, parce que justement, ce qu'on demande, ce n'est pas ce que demande le CNO plutôt, ce n'est pas de la mer à boire. Le CNO Togo demande juste une protection des athlètes, une meilleure protection des athlètes en ce qui concerne l'assurance, la couverture assurance, ce qui est quand même normal et légal. Parce qu'à chaque compétition olympique à l'international, le CIO demande l'assurance qui accompagne l'athlète en cas de problème, en cas de nécessité. Maintenant, il revient aux fédérations d'assurance sportive, chacune, de pouvoir organiser les championnats en souscrivant notamment une police d'assurance et en souscrivant une police d'assurance pour chaque athlète qui compétit ou qui est engagé dans un championnat national. Et donc, je crois que c'est clair. Maintenant, il revient aux fédérations d'assurance sportive de s'organiser si elles ont besoin d'accompagnement du CNO. Je pense que le CNO a mis en place depuis quelques jours un comité d'assurance et de protection des athlètes. S'ils ont besoin d'accompagnement, de discuter avec le CNO pour voir dans quelle mesure le CNO peut les accompagner, leur faciliter notamment la souscription d'une assurance individuelle et d'une assurance en sécurité civile à tous ces athlètes qui sont dans le mouvement olympique.
Merci Elom pour cette clarification. Michel et Magloire, la pratique du sport, notamment de haut niveau, n'est pas exempte d'accidents. On connaît l'histoire de ces sportifs victimes d'accidents sur un terrain et puis dont la carrière a été gâchée. Pour du Togo, je me rappelle toujours notre compatriote Ludovic Assemoissa,
à la Coupe du Monde mondiale 2006.
Qui était promis à un bel avenir, mais au tout premier match du Togo en Coupe du Monde 2006, il a été blessé et jusqu'à ce jour, personne n'en parle plus. Et j'ai un cas plus particulier. J'ai pratiquement un camarade, quand j'étais au lycée, il s'appelle Hope Francis, un garçon très talentueux. Il avait participé à la qualification du Togo pour la Coupe du Monde junior 1987. Magloire n'était pas encore né. Mais sur un terrain d'entraînement, Francis Hope a eu un accident, une fracture. Je ne sais plus ce qu'il est devenu. Alors, on peut comprendre le besoin exprimé par le CIO, le CNO Togo et l'État togolais de protéger les athlètes en souscrivant à cette différentes formes d'assurance. Mais l'autre volet de la question, c'est est-ce que les fédérations ont l'argent pour justement souscrire à ces assurances?
Ils sont obligés de créer des fédérations. Pas l'argent, mais qu'ils attendent d'abord. Moi, je dis que dans tout ce que tu viens de dire, c'est que l'objectif, c'est de protéger les athlètes, les joueurs et tout. Parce que lorsque vous êtes talentueux, vous évoluez bien, tout le monde est content. Mais lorsque vous avez des problèmes, peut-être c'est un ou deux mois après et puis personne n'en parle.
Oui.
Je me rappelle de ce joueur sud-africain Coupe du Monde de rugby et qui a été blessé. Et au cours du match, je pense, Afrique du Sud, France, qui a été blessé, et quelques mois, plus tard, il est dans un fauteuil roulant et c'est fini. Toute sa carrière est bafouée, c'est fini. Mais
s'il n'y a pas d'assurance pour le couvrir,
il devient quoi? Il va rester au bord de la rue pour mendier. Ouais, donc c'est de faire en sorte que le CNO et Togo et les différentes fédérations puissent se accorder leur violon sur le minimum, parce que au-delà de tout, il faut protéger les artistes,
les athlètes,
parce que quand vous êtes en forme, c'est bien, tout le monde est content de vous, mais quand vous êtes vous avez un problème, les gens se plaignent deux jours et après ça finit,
on vous oublie.
Donc c'est pourquoi parfois quand les joueurs réclament des choses, parfois j'ai tendance à croire, en tout cas à être de leur côté, parce que leur vie là, mais vous voyez, c'est pratiquement rien du tout. Il faut quand même capitaliser lorsque vous êtes en forme. Si un jour vous avez des problèmes, vous pouvez
d'autant
vous prendre en charge.
D'autant plus que la durée de vie d'un athlète, voilà. Ce n'est pas... C'est les plus grands champions qui font jusqu'à 20 ans de carrière. La grande majorité, c'est une dizaine d'années.
Exactement.
Et comme c'est des gens qui n'ont pas fait des études, n'ont pas appris un métier, alors après leur carrière, ils deviennent quoi? C'est en cela que cette affaire d'assurance est nécessaire pour les protéger pour le reste de leur vie.
Non, je crois quand même que c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens aujourd'hui. Je crois quand même que les fédérations sportives n'existeront pas s'il n'y a pas en amont des athlètes. Hein? Et c'est en cela que cela s'impose à eux, justement, de travailler au mieux pour justement assurer à ces athlètes-là un avenir assez radieux. Vous l'avez dit, la carrière d'un athlète, c'est pas 30 ans comme pour un fonctionnaire, c'est 15 ans, 20 ans tout au plus. Et par après, vous redevenez vous-même et vous pouvez vous convertir à d'autres fonctions. Et donc, c'est le lieu, justement, de mettre les éléments qu'il faut. Hein, pour pouvoir permettre à ces athlètes-là d'abord de travailler dans de très bonnes conditions, parce que à quoi ça sert pour un athlète de savoir que dans cette aventure, si il n'a pas tous les gages nécessaires hein, pour avoir d'abord au plan moral une certaine stabilité et donner un meilleur rendement qu'on attend de lui, mais en même temps s'il sait que tout ce qu'il fait, il le fait à ses risques et périls, et donc c'est encore un élément motivateur de moins pour lui. Et donc moi je pense que aujourd'hui il va falloir en tout cas faire en sorte que et les fédérations sportives et le CNO Togo et le ministère des Sports puissent trouver la bonne formule pour amener les fédérations petit à petit à souscrire aux assurances pour les athlètes. Qui sait, peut-être les dotations que l'État accorde aux fédérations, si on estime que les fédérations n'ont pas les moyens comme ici, comme cela, pour pouvoir s'y lancer, mais annuellement les dotations qu'on leur accorde, peut-être qu'on peut défalquer un quota. Mm-hmm. Comme ça va leur alléger la tâche, et petit à petit je crois qu'on trouvera forcément solution à cela.
Merci, c'est les pistes hein, que nous traçons ici au studio, mais il y va d'abord de la sécurité des athlètes. S'il n'y a pas d'athlètes, il n'y a pas de fédération. S'il n'y a pas d'athlètes, il n'y a pas de compétition. Donc protégeons nos athlètes hein, pour que nous puissions aller vibrer avec eux sur les stades. Et un auditeur qui nous suit m'informe à l'instant même que Francis Hope, dont je parlais, il est décédé depuis. Ah. C'était quand nous étions à Thiévier, moi j'étais au lycée, lui il était au CG Ville 1, vraiment un talent pur. Je rappelle qu'il avait participé à la qualification du Togo à la Coupe du Monde Junior 87. C'est à cette coupe-là que les Salou Bachirou
voilà.
et consorts oui. s'étaient révélés.
Voilà. Je crois que parlant des athlètes, il y en a aussi une catégorie qui se mettra en évidence demain, c'est les éperviers dames. Qui commence les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et demain, vendredi, les éperviers joueront le Djibouti à Lomé, mm-hmm. en aller-retour. Et la chance, entre guillemets, pour le Togo, c'est que, pour faute de n'avoir pas un stade homologué, le Djibouti a décidé de jouer ses matchs aller-retour à Lomé.
Mm-hmm.
Et donc, voir d'abord le vécu de l'équipe togolaise par rapport au Djibouti, voir le pedigree même des joueurs. Je crois quand même que si tous les moyens sont mis en place, il y a quand même de bonnes chances que nos éperviers d'âme puissent passer quand même ce premier tour, parce que au deuxième tour et la dernière phase qualificatif, on va forcément rencontrer la Côte d'Ivoire, j'en suis sûr. Et donc, l'idéal serait d'abord de passer cette étape pour voir quelle équation
résoudre. Bonne chance aux poulies de Tometi Kaï demain. Mais Elom, je présume que comme c'est les équipes nationales, l'État togolais, par le ministère des Sports, lui a pris les dispositions pour assurer ceux qui jouent sous le maillot national. Elom.
Bon, je crois que la question là devrait être normalement posée au président de la Fédération togolaise de football, puisque c'est à lui de pouvoir nous dire exactement ce dont il s'agit. Je ne sais pas comment ça se gère de ce côté, mais comme l'ont dit mes confrères également, je crois que c'est nécessaire et ça relève, ça c'est le bon sens, ça relève d'une certaine nécessité, parce qu'on a plein de cas, à part les joueurs, on a des athlètes qui, dont on ne connaît pas la situation, mais qui sont blessés pour un oui ou un non, mais dont la carrière est gâchée, vous comprenez, qui sont à la maison, qui sont malades, ou bien juste parce qu'ils ont eu un coup de poing au visage lors d'un combat de boxe, par exemple, ou parce que, bon, ils sont en train de pédaler, et puis ils ont fait un faux pas, et voilà, ils ont glissé, oui. Et parce que nous, on n'a même pas de vélo professionnel en cyclisme, par exemple. Et maintenant, à part ça, on n'assure pas encore des athlètes, des cyclistes. Ça, c'est un exemple. D'autres, la boxe, ça, on peut citer plein d'exemples. Et donc, aujourd'hui, toutes les fédérations ont quand même l'obligation de respecter la loi.
Nous parcourons rapidement quelques denrées de première nécessité. Nous en parlions hier et l'actualité revient là-dessus. Il s'agit de cette hausse unilatérale du prix des ciments par les producteurs. Hier, dans sa parution, le confrère La Manchette en parlait en citant nommément Simtogo et Simco. Qui aurait déjà augmenté ou bien qui prépare l'opinion à l'augmentation du prix de la tonne. Et dans l'émission, nous avions eu deux ou trois appels hier, les auditeurs qui ont confirmé que vers Sokosito, ils avaient déjà acheté le ciment à un prix de 79 000. Et puis, courant la journée, un ami nous a envoyé ce document venant de Simco, c'est une note d'information, Simco Industrie SA qui porte à l'attention de ses distributeurs qu'à partir du 19 septembre 2023, les prix d'achat à l'usine subiront un changement. Les nouveaux prix par région sont les suivants: région maritime 78 000, région des plateaux 78 000, centrale 78 000, Cara 79 000, Savane 79 000. Alors ça, officiellement, Simco annonce déjà la revue à la hausse de la tonne de son ciment. Sauf, Michel, que c'est le gouvernement qui est habilité à fixer le prix d'une denrée stratégique comme le ciment. Alors, comment est-ce que Simco et un peu Simtogo peuvent décider d'augmenter leur prix et que le ministre du Commerce, encore une fois, reste sourd et muet?
Mais elle est là, Elle est là, tu peux aller la voir. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut dire par rapport à cette situation. C'est vrai, parfois, c'est pourquoi la population a comme l'impression comme quoi on n'a personne pour nous écouter ou bien on n'a personne pour nous défendre. Parce que, bon, comment cela peut-il se passer de cette façon alors que, comme toi-même tu le dis, c'est au fait le gouvernement qui doit fixer les prix. Mm-hmm. Et maintenant, une société comme ça, unilatéralement, donne ses prix. Et jusqu'à ce matin, on ne dit rien. Et alors que les gens continuent à acheter du ciment. Oui. Ça veut dire qu'ils vont acheter avec des prix majorés. Mais sans que la ministre, ou ses services du moins, ne disent quoi que ce soit.
Merci. Passons du ciment à une autre denrée, c'est la tomate. Ce légume qui agrémente notre cuisine. Flambeau en parle aujourd'hui, abondance de la tomate sur le marché actuellement, mais ce fait qu'une bonne partie de notre tomate va atterrir plutôt au dépotoir, parce que tout le monde a une idée de la durée de vie d'une tomate non transformée. Alors vous écrivez « éviter le pourrissement ». Souvent les producteurs, Magloire.
Oui, nous avons estimé qu'il était important de revenir sur cette actualité parce que vous l'avez si bien dit, la tomate est une denrée très périssable. Or, il se fait que c'est une denrée également saisonnière. La saison qui court actuellement, elle va de juin, juillet, août, septembre pour les zones du littoral. Et la seconde saison, elle va courir de janvier, février, mars pour la région des savanes. Maintenant, la réalité qui est là, c'est que en pleine saison, par exemple, vous allez voir que d'abord, les prix dégringolent. Le panier de tomates qui se vendait autour de 30 000 est aujourd'hui autour de 2 500-3 000. Maintenant,
les producteurs qui sont obligés de brader carrément.
Exactement, les producteurs sont obligés de brader carrément parce que derrière, ça va pourrir également. Alors, on se dit, mais devant cette situation, que faut-il faire véritablement pour permettre justement à sauvegarder ce qu'on peut faire? Parce que les tomates, par exemple, ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des mécanismes de sauvegarde de cette tomate qui, saison passée, peut être encore utilisable dans les ménages.
Si on peut la transformer.
La transformer.
Pour une meilleure conservation.
Alors, pourquoi pas nos services techniques peuvent aider les populations à adopter ces mécanismes-là pendant qu'on a encore du surplus aujourd'hui en abondance qui se retrouve sur les dépotoirs, on peut justement transformer ces surplus-là pour les sauvegarder et après les réutiliser dans nos ménages parce que les chiffres officiels de l'État estiment à 45% des ménages agricoles qui cultivent la tomate. Ça voudra dire que si on prend bien soin de cette portion de population, on peut également avoir des tomates en abondance, mais qui vont être également utilisées à bon escient. Parce que l'autre problème qui est là aussi, c'est que quand la tomate, elle est là comme ça, on ne sait véritablement pas comment y procéder justement pour que, comme je l'ai dit, après saison, que ça soit encore des denrées utilisables. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Parce que aujourd'hui, on en a et on prend ça comme si oui, on peut jeter et après. Alors qu'ailleurs, des gens en cherchent.
Oui.
Aujourd'hui, la dynamique est qu'on a plein d'entreprises qui se créent, des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans la transformation de nos produits agricoles. Mais quand vous leur demandez, mais qu'est-ce que vous en faites de ces produits saisonniers qui sont là, et après, on est en manque. On ne vous donnera pas des recettes nécessaires. Donc, nous pensons que c'est le moment idéal pour l'État d'actionner, n'est-ce pas, ces services techniques pour aider ces entrepreneurs qui se déploient justement dans ces secteurs de travailler véritablement à sauvegarder, à transformer ces produits-là.
Passé la saison, le Togo se retrouve en manque et nous sommes obligés encore d'importer ces tomates de l'extérieur, que nous avons jeté il n'y a pas longtemps. Passons rapidement à deux autres denrées qui font un peu plus de plaisir. Voilà, le vainqueur nous parle de l'adduction d'eau potable, que serait la vie sans eau. Voilà, on revient sur ces projets ambitieux qui sont en train d'être mis en œuvre avec un taux de desserte estimé à 67%. Michel, il faut encourager le gouvernement dans ces projets-là que les Togolais puissent avoir de l'eau potable en tout point du territoire.
Oui, je pense que au XXIe siècle, si on doit encore parler d'eau, ce n'est pas bien. Et puis, surtout, d'eau potable. Et le gouvernement l'a compris, et ces 4-5 dernières années, je pense qu'il est passé à la quatrième vitesse parce que les populations ont véritablement besoin de l'eau, et surtout dans les zones les plus reculées. Il y a des forages qui se font un peu partout et ça concerne toutes les régions du Togo. Et comme on le dit, les 67% c'est à l'échelle nationale, donc le taux de desserte. Donc les efforts doivent continuer, le Togo doit maintenir le cap. Et parce que si aujourd'hui nous prenons le Grand Lomé, c'est 111%, et dans la zone urbaine, ça fait 110%. En zone semi-urbaine, ça veut dire 54%, et en zone semi-urbaine, ça fait 12%. Ça veut dire quelque part que il y a une disparité par rapport aux zones. Et donc, ce qui veut dire simplement que les efforts doivent continuer, surtout dans les zones semi-urbaines, où on est à 54%. Ça veut dire que les efforts doivent continuer
Pour remonter la pente.
Pour que, au moins, sinon, on n'a rien à manger. Si on boit une bonne eau, c'est déjà bien. Ça peut nous prévenir de beaucoup de choses. Donc, il faut que le gouvernement accentue ses efforts dans ce domaine-là. Merci. Parce que
le nouveau ministre de l'eau, de l'hydraulique villageoise, le ministre d'État Yacques Dalham, il sait ce qu'il lui reste à faire pour améliorer ces scores-là, que d'ici 2030, comme le gouvernement l'ambitionne, les Togolais puissent avoir de l'eau à 100%. Nous allons terminer par cette bouffée d'oxygène que l'Office togolais des recettes vient d'insuffler dans les ménages et dans l'économie. Revue de presse avec le changement qui parle de décongestionnement des magasins et aires de dédouanement. Ouara le vainqueur parle, lui, d'allègement fiscal sur les valeurs des véhicules de plus de 5 ans d'âge. La Nouvelle Tribune en parle aussi en publiant le communiqué où l'OTR dit que dans le souci d'assurer un allègement fiscal sur la mise à la consommation des véhicules en souffrance sous douane, en ces moments de vie chère et afin de décongestionner les parcs auto pour inciter aux nouvelles commandes de fin d'année, cet allègement qui a été décidé par l'OTR, cette nouvelle campagne qui a démarré depuis hier, le 20 septembre dernier. Alors, pendant 3 mois, ceux qui sont concernés peuvent bénéficier de cet allègement-là et aller enlever leur véhicule, décongestionner les parcs et laisser la place à d'autres opérateurs. Magloa?
Non, je crois quand même que c'est une activité régulière que l'OTR et ses services techniques mènent chaque année. Et le moment est encore arrivé pour passer encore à cette campagne. Et c'est de bonne guerre. On parle de allègement fiscal de 30% sur ces véhicules, on va dire en souffrance sous douane, et ça permettra également, n'est-ce pas, de décongestionner le parc auto du port autonome de Lomé. Maintenant, il revient, n'est-ce pas, à tous ceux qui le veulent de faire un petit tour au port de Lomé, et forcément ils trouveront de bonnes choses. Qui sait, peut-être c'est mon moment aussi. Hein,
pour... Un moment à toi aussi.
Ah oui, de passer par là et pourquoi pas.
Et avec le carburant qui ne va plus manquer. Et le Manichopé, c'est une opération qui court jusqu'au 31 décembre.
Oui.
Et si on se tient dans le délai, on pourra bénéficier de 30% de dépréciation. Et finalement, ça pourra apporter un peu d'oxygène ici et là.
Oui, je crois que depuis quelques années, l'OTR le fait. Donc, cette opération court jusqu'au 20 décembre. Avis à ceux qui voudraient bien s'acheter une voiture. Je crois que l'OTR le fait souvent pour décongestionner le port et dans une certaine mesure, c'est un avis personnel, aider aussi ceux qui sont quand même dans le besoin, parce que la voiture, c'est quand même nécessaire pour tout le monde de pouvoir saisir l'occasion d'acheter un moyen de locomotion.
Merci, on va terminer en rendant nos hommages à un aîné. C'est le professeur Edo Kodjo-Mori Lagboblé. Il a été une fois ministre, mais il a été également, il est toujours d'ailleurs enseignant à près de 80 ans, même si officiellement il a été admis à la retraite en 2012. Le professeur Lagboblé continue toujours à réfléchir, à écrire. Il y a quelques jours, il a bénéficié des hommages par ses collègues et ses jeunes frères à l'université de Lomé, avec des témoignages les uns plus élogieux que les autres qui lui ont été rendus. Mais c'était l'occasion également pour le professeur Agbobli de présenter son dernier ouvrage en date, intitulé « La présentation de l'ouvrage philosophie économique à l'aune des nouveaux paradigmes de développement ». Nous le célébrons aujourd'hui, Michel, parce que trop souvent, nous attendons que les gens meurent pour chanter leur mérite.
Ce qui n'est pas du tout intéressant. Il faut vraiment reconnaître les gens, la valeur des gens, quand ils sont encore vivants. Et c'est ce que les professeurs, en tout cas les collègues de Maurice Lagboblé, ont posé comme acte. Je trouve ça très intéressant à la faculté de droit, à la faculté des sciences, le plus souvent, ils sont. C'est un rituel. Lorsque vous travaillez à un âge donné, vos jeunes frères vraiment manifestent leur reconnaissance à votre égard. Ce qu'ils ont fait là, je pense que c'est impressionnant. c'est de son vivant que vraiment, quand on reconnaît ce que vous avez posé comme acte, c'est là vous voit droit au cœur. Ouais, c'est pourquoi, souvent, quand on décerne des... Comment vous les appelez là, on décore des gens à titre posthume, ça ne me plaît pas tellement. Cette affaire-là ça ne me plaît pas du tout. Rappelez-vous, le chanteur ivoirien...
Duxaga. Ouais.
Sur le lit de l'hôpital, il a dit que il supplierait, à l'époque c'était Laurent Gbagbo, de le décorer, parce que vraiment ce que lui l'a fait en ces moments de crise là. Mais on a attendu, quand il est mort maintenant, on amène les... Moi, si je fais partie de sa famille, on va refuser ça. Qu'on n'a qu'à retourner
ça à l'heure. Merci, alors, nous ne faisons pas ça, nous. Nous associons à l'Université de Lomé et à toutes les écoles où le professeur Kodjo Edomori Lagbobli a enseigné ou continue d'enseigner pour le célébrer pendant qu'il vit encore. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais quelqu'un va écouter cette émission et aller lui souffler à l'oreille. Il a été une fois ministre, enseignant-chercheur, mais il a également longtemps travaillé dans le secteur de la promotion, de la planification de l'éducation. Je crois qu'il a également passé par la promotion du tourisme. À 80 ans, la dernière fois je l'ai vu, et il paraissait encore bien solide pour dire que le moteur et la carrosserie tiennent encore assez bien. Et l'homme, le moins que nous pouvons nous souhaiter, c'est que nous arrivions à son âge, à 80 ans, voire plus. Nous n'aurons pas son palmarès, mais au moins nos petits-enfants vont nous célébrer chez nous à la maison.
C'est vrai, je crois que c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. La santé surtout, restons en bonne santé, demandons la grâce à Dieu de pouvoir nous garder en bonne santé. Je crois que c'est très important.
Amen. Il est midi, passé légèrement de quelques instants, nous allons en pause, le temps que Victor Gbekoku Michel adresse le clin d'œil de Canal FM à nos partenaires. Et puis nous renouons avec les auditeurs qui vont déjà s'apprêter à composer le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75.
93.5. Canal FM.
Il est 12h passé de 6-7 minutes. À présent, nous nous connectons sur vous. La technique m'annonce déjà le premier co-animateur en ligne. Bonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Oui, l'ami Évangéliste Senghor.
Oui, comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu.
Merci beaucoup. Bon, vous savez, ce qui s'est passé dans 3-4 jours de pénurie de pétrole et de l'eau, un de vos confrères qui disait que une seule journée est trop grande. Parce que c'est-à-dire que les gens peuvent mourir à cause du carburant. Ça, c'est normal. Vous voyez, moi, ce qui je n'arrive pas à comprendre, et que les Sénégalais n'arrivent pas à comprendre, ça, je vous en prie de me laisser parler. Ça veut dire que même si quelqu'un qui est à son poste, et on enlève la vie, c'est que vous avez parlé du commerce à l'aider. Et on amène une autre personne, et il y a un problème. Il faut savoir qu'il y a quelque chose dans le système là-bas. Vous le comprenez. Deuxième point, tout à l'heure, l'ETR vient de faire un communiqué pour la dépréciation. Mais ça, je prierai à M. Tavier de voir ses collègues toute la valeur. C'est-à-dire, quand on parle de dépréciation, les gens croient que demain, il y a quelque chose qu'on a même du tout. Non! Quand on calcule, c'est toujours la même chose. Je vous parle en tant que transiteur, en tant que déclarant, voilà. Quand on donne la valeur et que vous calculez, vous payez, c'est presque la même chose. Donc, je prierai à le premier responsable de l'OTA de voir cette collègue pour que la valeur puisse primer. Alors, en fait, les Togolais seront très contents parce que la valeur baissée, ils ont fait quelque chose.
Merci beaucoup, l'ami Senghor. Nous passons le témoin au suivant. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est
oui.
Komi.
Oui, Komi.
Deux sujets m'intéressent. Le premier, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore la sincérité au niveau du carburant. C'est la permanence qui continue. Si vous comptez sur une station, vous y rendez, c'est les pompistes qui vous font le petit doigt qu'il n'y a pas de carburant. Donc, pour avoir sincérité, je pense qu'on doit pouvoir inquiéter ceux qui sont dans ce comité du CSFPP que Madame la ministre préside.
Le comité sectoriel de fluctuation des prix des produits pétroliers.
Bien sûr.
Oui.
Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus votre confrère Ferdinand pour nous dire exactement ce qui se passe, mais j'encourage toute la presse d'investigation de fouiner là-dessus pour qu'on puisse avoir la tranquillité. À cause de ça, les prix ont flambé sur les produits parce que les gens ont fait des transports énormes pour pouvoir chercher certains produits.
Mm-hmm.
Même sur les articles de fourniture scolaire, on peine à les avoir.
Cela va ajouter à l'inflation.
Justement, justement. Mais sur le second sujet, vous avez posé la question, mais vous n'aviez pas répondu. C'est par rapport aux fédérations. Eux aussi, à leur niveau, ils ne parlent pas, je ne sais pas pourquoi, mais le constat que moi j'ai fait, les fédérations tiennent debout à partir de la poche des présidents de fédération. Donc si le CNO et le ministère leur demandent de payer les assurances pour les athlètes, je pense que ce n'est pas faisable. Sur ce point, que ce que l'État donne, ce que j'ai lu plutôt sur certains papiers, c'est à peine 2 millions, 3 millions comme financement par semestre ou bien par année. Ça ne dépasse pas 10 millions le tout. Du coup, je pense pas que pour une activité ou bien deux activités dans une année, une fédération va prendre l'argent du financement de l'État pour payer leurs assurances. Je ne pense pas.
Merci.
Je propose plutôt
oui.
que le CNO et le ministère formulent une demande de loi au niveau de l'Assemblée qui permet à l'OTR d'hausser le taux de dons et de legs des entreprises de 1 pour 1000 à 5 pour 1000 pour permettre à ces entreprises-là de financer les activités sportives, culturelles et pour permettre à ce monde-là aussi de respirer un peu.
Merci, c'est une proposition, mais j'imagine déjà la tête que vont faire les chefs d'entreprise quand un tel projet de loi va entrer dans le jeu. Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, c'est monsieur
Atissot.
Atissot.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier, s'il vous plaît?
Oui, ça c'est... moi, je voudrais revenir sur un sujet dont vous avez parlé hier. C'est par rapport à l'apprentissage de l'anglais au cours primaire.
Mm-hmm.
Bon, je pense que l'anglais, bon, tout le monde le sait, est une langue par excellence, une langue internationale par excellence. Mais hier, vous mettiez plus le doigt sur le fait que nous parlons de moins en moins nos langues maternelles à nos enfants à la maison.
Ça aussi, c'est une réalité.
Vous savez ça? Moi, à la maison, je parle français à mes enfants. Vous savez pourquoi?
Non, dites-nous.
Parce que quand l'enfant aura débuté l'école, c'est la langue française qui est l'outil avec lequel il va travailler. Au moins, on va dire peut-être le gobelet est sur la table, on sera obligé de lui montrer les images d'abord avant qu'il ne sache ce que c'est que le gobelet, ce que c'est que la table. Vous voyez. Or, quand l'enfant a les béabas de la langue, ça l'aide à vite assimiler la langue. Je vous donne un exemple des petits Nigériens qui sont ici. Les Igbo, par exemple. Vous voyez un petit Igbo, déjà, au bas âge, les parents lui parlent la langue Igbo, l'anglais, et l'enfant maîtrise bien le Mina aussi. En plus, à l'école, il apprend le français. Cet enfant est capable d'assimiler les quatre langues à la fois.
Nous disons la même chose. Nous disons la même chose. Nous allons faire la promotion de l'anglais, du français, mais également enraciner nos enfants dans leur identité, dans leur culture, en leur parlant la langue qui est la nôtre et qui fait notre identité.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Sauf que nous stagnons, nous avons toujours stagné. C'est-à-dire que vous prenez par exemple le Mina ou le V. Est-ce qu'il y a un dictionnaire français et V?
Bon, le débat reste ouvert, laissons ça aux pédagogues, mais nous qui avons toujours parlé, lever le cabier à la maison, ça ne nous a pas empêché quand même de faire d'assez bonnes études. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Bankole.
Monsieur Bankole.
Oui.
Nous vous écoutons.
Comment allez-vous?
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
Je vous salue tous.
Merci.
Et je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Et moi, mon inquiétude, ce se situe au niveau des stations d'essence, stations de carburant, est-ce qu'on ne peut pas veiller à ce que lorsque les livraisons sont faites dans les stations d'essence, c'est-à-dire lors des déposages, est-ce qu'on ne peut pas veiller à ce que le carburant soit vendu totalement? Pourquoi? Il arrive qu'ils vendent la moitié ou le tiers et...
Ils font de la rétention?
Délibérément, vous arrivez, ils vous disent qu'il n'y en a pas. On a l'impression qu'il y a un autre circuit de business que les gérants et les pompistes organisent. Alors, comment vous pouvez comprendre que 3 jours de pénurie, on se retrouve sur le marché noir avec le litre qui est vendu à 2500, voire 3000 francs. Et je crois que l'État doit scrupuleusement veiller à cela pour éviter des mécontentements. Mmh. Alors, je tiens à préciser ceci pour le meilleur de tous les Togolais, parce que le carburant, qu'on le veuille ou non, c'est notre déplacement. Et sans carburant, l'économie est à terre.
Merci.
Alors,
donc, le gouvernement et les associations de protection des consommateurs,
pour plus de transparence,
oui.
Nous prions le gouvernement à veiller à cela. Je vous remercie.
Je vous en prie, l'ami Bankole. Le suivant, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Papa Sibiti.
Bonjour, le plateau.
Bonjour à vous.
Vous m'avez posé une question l'autre jour. Est-ce que mon problème d'inondation est résolu? Non. Que le président écoute nos tristesses. Deuxièmement, le ministre Agobli, félicitations pour comment vous l'avez fait. C'est le meilleur directeur général que j'ai dit. Il a logé l'éducation en matière de population dans son truc. Dès que chaque année, en décembre, il vous dit quelqu'un qui sait que s'il mange, ceux qui sont en dessous de lui doivent manger. Il nous remet au moins 5 kilos de riz. Troisièmement, ce que je voudrais dire, vous êtes un grand pédagogue. Quand vous lancez le problème d'éducation, il ne faut pas que les profanes rentrent dedans pour faire un délai. Comment vous êtes né? Je ne me plains à personne. Je ne suis contre personne. Comment on peut être togolais et ne pas comprendre sa langue? Je pose cette question. Quand vous allez à l'école le matin, déjà à 7h30, c'est le français. On n'enseigne pas le Kotokoli, le Kabyé, le Minato qui suit. C'est tout ça là, c'est le français. Dictionnaire ou non, monsieur, que les Togolais sachent qu'ils sont Togolais, ils ne sont pas français.
Merci. Je vous en prie, soyons nous-mêmes dans notre langue, dans notre culture, en portant nos noms avant d'aller au rendez-vous de la civilisation de l'universel. Le dire suivant, bonjour.
Bonjour, Georges.
Georges.
Oui.
Nous vous écoutons.
Je me demande comment est-ce que c'est pour, concernant le carburant, on n'est pas en mesure d'avoir un mois de stock dans ce pays. En 3 jours, on a vu ce qui s'est passé. Et pourtant, des gens prennent de l'argent en Afrique et vont acheter des maisons en Occident. Et ils sont toujours en Afrique. Les gens peuvent vivre 6 mois sans acheter de l'essence. Ils ont des stocks. Et nous, on n'a rien. C'est grave. Merci.
Bon, je ne sais pas si on peut affirmer qu'on n'a rien, mais on doit avoir quelque chose. Mais quelle utilisation on en a fait? That is the question. L'auditeur suivant, c'est le dernier aujourd'hui. Bonjour.
Ouais, c'est un petit retour. Hein.
Oui.
Bon, c'est une de l'éan, s'il te plaît. Je voudrais voir ça. Est-ce que ça ne serait pas bon? On dit à Neve, et là, d'ailleurs, pour un tablier, pour un tablier. Donc, d'inviter les pasteurs. Les évangélistes, parmi nous, il y a des journalistes politiques, hein. Il y a des gens, comme peut nommer des ministres, hein, pour venir sur votre chaîne là, pas pour nous dire sont les Togolais. Pour au moins donner leur point de vue, leur point de vue concernant le pays. Voilà, maintenant, la loi qui est sortie du directeur de tout truc là. Normalement, dans une nation, je connais des pays où on nomme des gens qui s'en cadrent uniquement que l'église. Mais tout religieux, je ne sais pas, vous allez terminer. Donc, est-ce que ça ne serait pas bon?
Merci. Nous restons ouverts à tous les débats et pourquoi pas nous, les personnes ressources de toute obédience sont les bienvenues au studio, selon le sujet, selon l'actualité au jour le jour. Nous animons le club de la presse et nos débats, c'est sur les sujets d'actualité au jour le jour. Si un sujet nous amène à avoir l'expertise des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, warum nicht? Merci à tous ceux qui ont pu appeler aujourd'hui. Alors, retour au studio, une minute
bon, sur à un chacun. Oui, sur deux sujets. Le premier, c'est par rapport aux fédérations. En fait, il n'est pas demandé aux fédérations de pouvoir payer l'assurance avec la subvention de l'État. Non, moi-même, je suis responsable fédération. Et à part la subvention de l'État, une fédération constituée de clubs, vous comprenez? Et d'abord, les licences, quand vous établissez une licence à un joueur, à un sportif, à un athlète, c'est payé, c'est payable. Vous ne pouvez pas faire une licence gratuitement. Ça fait partie des ressources de la fédération. Et chaque club qui vient s'affilier à une fédération paye des droits d'adhésion. Ça fait partie des ressources. Et donc, un club qui vient déclarer une affiliation, demander d'être affilié à une fédération, la fédération demande quoi ? Qu'on puisse établir une licence en bonne et due forme à ses athlètes, c'est-à-dire aux membres de son club, mm-hmm. et ensuite que le club fournisse l'assurance de tous les athlètes qu'il déclare. C'est aussi facile que ça. Mais n'attendez pas que la fédération vienne établir l'assurance aux joueurs de votre club. C'est à vous, en tant que responsable de club, dirigeant sportif, de pouvoir veiller à ce que ceux que vous déclarez soient assurés. Mm-hmm. Et c'est les règles de la fédération qui doivent dire que je prends juste les clubs qui sont en règle avec l'assurance. Et donc, ce n'est pas quand la fédération doit payer l'assurance pour les sportifs, les athlètes ou les clubs qui viennent s'affilier. Il faut que ça soit clair. Moi, je dis ce que les fédérations devraient faire pour normaliser la situation.
Merci.
À moins que les fédérations n'aient pas de club. Parce qu'il y a aussi des fédérations. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de club. Mais si les clubs sont vraiment des clubs représentatifs, ils doivent pouvoir se mettre en mesure pour pouvoir protéger ceux qui jouent en leur sein. Deuxième chose sur la langue.
Oui.
Sur la langue. Bon, il y a un auditeur qui dit qu'à la maison, il parle français à son fils et que son fils, c'est pour qu'il puisse être à niveau, etc. C'est ce que les gens font et ils font perdre des valeurs locales en ce qui concerne des nationales culturelles à leurs enfants. Moi, j'ai une amie qui ne fait que parler français à son fils, d'accord? C'est des jumeaux. Les jumeaux sont nés au Togo, mais ils ne parlent pas couramment Mina.
Ils sont lomés ici.
Ils sont lomés, ils sont nés sur le territoire ici, mais ils ne peuvent pas t'aligner deux phrases en Mina. Parce que leur maman ne fait que leur parler français à la maison. Mais ils sont togolais. Est-ce que c'est normal? Mais ils vont à l'école. Ils apprennent français à l'école. Ils viennent parler français à la maison. Mais quand ils vont au culte les dimanches, quand on parle en Mina, ils comprennent rien. Mais quand on parle en français, ils sont à l'aise. Ils comprennent la parole de Dieu.
Alors, ils sont togolais. Alors ils sont au Togo.
Oui, mais moi, par exemple, j'ai fait le collège. On m'a enseigné l'évé, pas le Mina. C'était dans les matières. L'évé. On a pris ça à l'école. On nous évaluait même en composition, en EV. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais les gens font le cabiais aussi à l'école.
Il y a manque d'enseignants dans nos langues nationales, cabiais et EV. Au moins, parlons. En tout cas, Mima demi en dégoué la femme, il y a des théos. Nous gagnons.
Par rapport à notre ami qui dit qu'il parle français à son enfant, je suis désolé. Mais il ne faut pas qu'il vienne nous raconter des histoires ici. Ça, c'est une volonté à lui qu'on ne peut pas imposer aux gens. Par certains coups qui courent où on veut que vraiment nos cultures soient protégées. La culture se protège à travers quoi? C'est la langue. Moi, je connais.
Pas notre langue et nos noms, j'insiste.
Voilà, oui.
Nos noms aussi.
Je connais un concombat qui s'est marié à une cabier. Maintenant, il se fait qu'ils parlent tous français seulement. Ils parlent seulement français aux enfants. À un âge donné, les cabiais qui viennent chez la dame, ils saluent les enfants, ils ne comprennent pas de quoi les questions. Le concomba, ses parents viennent, à un moment donné, ils étaient tous embarrassés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que leurs enfants-là, ils ne sont ni concomba ni cabiais. Bon, c'est comment ces enfants-là pouvaient les demander? Mais le français, moi je dis, le français, les enfants apprennent ça à l'école. Mais s'ils viennent, ils parlent mal, on peut les corriger. Mais c'est la langue, ça on doit être intraitable là-dessus. Nos langues, on doit vraiment apprendre cela à nos enfants. Les parler surtout
à la maison.
Même toutes les sciences le disent.
Le disent.
La langue de départ pour la stabilité psychologique même de l'enfant, c'est sa langue maternelle.
Oui. Mais
ça,
j'insiste, quand nous allons déclarer, Magloire, oui. quand tu seras marié bientôt, que tu auras un enfant, quand il ira le déclarer, oui. tu es d'accord avec vous, non?
Bien sûr.
Alors, lui donne d'abord le prénom de la
localité. Tu donnes, s'il te plaît, le nom, le prénom, garçon ou fille, ouais. d'Aklaku, avant ça. D'ajouter les prénoms importés ouais. ici et là. Il y va de nous-mêmes, de notre identité.
Tu peux l'ajouter, mais moi, non, de Koumabala, il n'y a pas de problème.
Ok, alors très rapidement, des cartons de fin d'émission, Magloire.
Non,
le carton, le destinataire.
Je n'ai pas de carton, mais juste pour interpeller un tant soit peu aussi ces détenteurs de stations de service qui en avaient comme réserve. De carburant, mm-hmm. mais qui refusait de servir ça.
Tu rejoins l'auditeur.
Exactement. Et je crois que ce n'est pas bien, c'est déloyal de le faire. Parce qu'ils le font dans l'espoir qu'il y aurait augmentation des prix. Mm-hmm. Et quand vous avez et vous êtes approvisionné sur un prix donné et qu'après il y a eu augmentation, mais vous servez l'ancien stock avec le même prix, je crois que c'est déloyal. Et donc, le ministère du Commerce, par exemple, il y a des inspecteurs qui descendent de temps en temps pour faire le
s'assurer que des stations ne font pas de la rétention pour créer des pénuries artificiellement. Merci, Elam. Un carton à quelqu'un?
Non, je n'ai pas de carton. Bonne journée à tout le monde et bon appétit.
Merci, et Michel.
Non, moi, je dis seulement merci au nouveau ministre de l'Administration territoriale parce que je me plaignais entre-temps ici par rapport aux puisards que les gens...
Les chantiers non protégés qui sont
en cause d'accident. Il y a un communiqué dans ce sens-là oui. pour inviter les gens à prendre leur disposition. Je pense que c'est dans le sens d'attirer l'attention des uns les autres pour que vraiment les chantiers-là soient protégés, les puisards et les trous qu'on creuse un peu partout. Pour que,
merci Michel de le rappeler. Nous étions au studio le jeudi dernier
voilà.
et c'est courant la journée que nous avons accusé réception de cette note signée de Awate Odabalo en date du 14 septembre 2023, note au préfet. Il m'a été donné de constater à travers un certain nombre de vos rapports mensuels que des accidents domestiques surviennent dans vos localités ces derniers temps par inadvertance et défaut de protection des fosses septiques, des puits et puisards. Ces ouvrages, souvent inachevés et non protégés, occasionnent des victimes. Afin d'éviter ces accidents dus à un défaut d'attention en ce moment de pluie, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires en collaboration avec les maires de vos communes respectives pour organiser des campagnes de sensibilisation et instruire les chefs traditionnels de mettre sur pied une équipe de veille afin de prévenir ces accidents. Nous ne dirons pas que le colonel Awate nous a écoutés, mais l'essentiel, c'est que le problème soit réglé, n'est-ce
réglé,
pas
voilà.
Merci beaucoup. Rendez-vous demain vendredi à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, continuons à célébrer la vie.